Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. 423 personnes ont été contaminées par le coronavirus sur le territoire français. 7 en sont mortes. Voici le dernier bilan des autorités sanitaires fait hier soir. Un député du Haut-Rhin est en réanimation alors que 2 salariés de l'Assemblée nationale sont aussi suivis par des médecins. Nous y reviendrons dans un instant et vous entendrez les inquiétudes de l'UNESCO puisque 300 millions d'élèves dans le monde sont privés d'école à cause de ce virus. Dans ce journal aussi, enquête sur l'entourage de Joël Leskarnec, le chirurgien soupçonné d'avoir agressé sexuellement plus de 340 enfants. Il connaissait d'autres médecins condamnés pour des crimes ou des délits sexuels. Et puis, compte rendu d'audience au procès Fillon, hier le couple a eu bien du mal à défendre l'emploi de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. Son patron avait déjà plaidé coupable. Un député alsacien et un salarié de l'Assemblée nationale sont malades du coronavirus. Le député Les Républicains du Haut-Rhin est hospitalisé en réanimation dans un état sérieux. Il s'agit de Jean-Luc Redzer. Un autre salarié du Palais Bourbon est également suivi médicalement à l'Ingastal.
Les députés, mais aussi les personnels de l'Assemblée nationale ont été prévenus très rapidement de la contamination en cours. Que l'Assemblée nationale devienne un foyer du virus n'est pas vraiment une surprise pour Astrid Born du syndicat des collaborateurs parlementaires.
L'Assemblée est un endroit assez sensible. Il y a 577 députés qui viennent de 577 circonscriptions. Donc c'est un lieu qui évidemment est exposé au coronavirus. Donc c'est pas tellement surprenant. Maintenant, on a été prévenus très rapidement. Les choses sont prises en main de façon assez rassurante.
Députés et personnels doivent maintenant se conformer à des règles strictes pour être soignés s'ils devaient être malades et surtout ne pas risquer de répandre encore plus le virus. L'Assemblée nationale est fermée. Le temps des élections municipales, il est prévu que ces travaux reprennent dans 2 semaines.
Car effectivement, les élections municipales auront bien lieu. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le confirmait hier après une réunion avec des représentants d'élus locaux. Sophie Delpont.
Pas question de reporter le scrutin, selon Christophe Castaner, même si certains maires pourraient souhaiter prendre une telle mesure face à l'épidémie. La question fait même sourire le ministre de l'Intérieur.
Il n'appartiendra pas aux maires d'annuler les scrutins, parce que certains pourraient avoir la tentation, surtout s'ils ne se représentent pas, de vouloir faire durer leur mandat. Non, la situation actuelle permet de considérer que les élections doivent avoir lieu le même jour, le 15 et 22 mars, sur l'ensemble du territoire national, en France métropolitaine et en Outre-mer.
Parmi les rares mesures annoncées hier, du gel hydroalcoolique serait à disposition à l'entrée du bureau de vote et une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne serait préconisée. Face au risque d'une augmentation de l'abstention de la part notamment de personnes âgées qui craindraient d'être contaminées en allant déposer leur bulletin dans l'urne, Christophe Castaner annonce un prochain élargissement des conditions pour établir une procuration à 10 jours seulement du scrutin.
Et nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Justice pour que nous puissions avoir des personnels supplémentaires qui ne soient pas forcément des agents de police judiciaire qui puissent renforcer nos effectifs pour pouvoir voter par procuration.
François Baroin, le président de l'Association des maires de France, se dit satisfait de l'annonce de l'exécutif de maintenir le vote malgré l'épidémie, même si les modalités concrètes sont encore en cours d'élaboration.
Garantir des conditions sanitaires de protection, la distance d'un mètre, 1,50 m, marquage au sol, un temps de latence, explication, pédagogie, bref, se mettre en situation de tenir ce scrutin dans les conditions singulières liées à l'évolution de l'épidémie du coronavirus sur notre territoire.
L'objectif de cette réunion était avant tout de rassurer les citoyens sur la prochaine tenue du scrutin, car la démocratie n'a pas de prix, selon les mots de François Baroin.
Reste encore qu'en France, de nombreux événements sont toujours annulés, manifestations sportives comme le marathon de Paris qui était prévu le 5 avril prochain avec environ 60 000 participants. Des salons sont également annulés, tournages de films aussi. Dans les écoles et les universités de 13 pays, il n'y a plus d'élèves, les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Selon l'UNESCO, au total, cela concernerait 300 millions d'élèves, Bertrand Galichet.
C'est le cas en Chine, en Iran, en Inde et en Italie, par exemple. Dans 9 autres pays, les fermetures d'établissements scolaires sont plus localisées, comme en France ou en Allemagne. Stéphanie Giannini est secrétaire générale pour l'éducation à l'UNESCO.
L'ampleur et la rapidité des fermetures d'écoles
sont sans précédent. L'UNESCO, qui est la principale agence des Nations Unies pour l'éducation, a le devoir de surveiller la situation qui évolue d'heure en heure.
Quels sont les moyens dont dispose l'UNESCO pour faire face à cette situation?
Nous mettrons à disposition une liste de solutions d'enseignement à distance pour soutenir les enseignants, les étudiants et pour fournir une assistance technique qui soit adaptée.
C'est également à distance que l'UNESCO organisera mardi prochain une réunion des ministres de l'éducation des pays concernés pour tenter de mettre au point des solutions. L'idée est d'utiliser les infrastructures numériques existantes qui permettront d'organiser des cours par Internet. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, tient surtout à ce que l'apprentissage pour tous se poursuive, en particulier à destination des enfants et des jeunes défavorisés, les plus touchés par les fermetures d'écoles.
C'était Bertrand Galichet pour France Culture. La Russie et la Turquie se sont entendus hier soir sur un cessez-le-feu en Syrie. Trêve qui est entrée en vigueur cette nuit à 23h et qui semble tenir jusque-là, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sur la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, les frappes aériennes syriennes et russes se sont arrêtées hier soir. À une semaine de son procès, la cellule d'investigation de Radio France a enquêté sur Joël Lescouarnec, ce chirurgien qui est soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 349 enfants pendant plus de 30 ans dans des dizaines d'hôpitaux en France. Et nous avons découvert qu'il connaissait d'autres médecins condamnés à la même époque pour des crimes ou des délits sexuels. Des médecins qui travaillaient dans les mêmes hôpitaux que lui en Bretagne et en Charente-Maritime, Laetitia Chérel.
À l'hôpital de Quimperlé, tout d'abord, Joël Lescouarnec fréquentait un radiologue qui était accusé de viol par plusieurs femmes. Un jour, en 2006, un psychiatre exige de ce radiologue qu'il arrête de faire des examens sans témoin. Joël Lescouarnec prend alors sa défense. Le radiologue sera finalement condamné à 18 ans de prison. À l'hôpital de Jonzac, ensuite, le dernier où Joël Lescouarnec a exercé. Un anesthésiste a lui été condamné en 2008 pour diffusion et détention d'images pédopornographiques à 3 mois de prison avec sursis. Au moment de l'arrestation de Joël Lescouarnec en 2017, les gendarmes retrouvent la trace de 3 appels entre les deux hommes. Ils décident donc d'interroger l'anesthésiste. Et pendant son audition, il reconnaît qu'il consulte toujours des images pédopornographiques. Nous avons fait lire un extrait de sa déposition.
Je ne consulte plus ce genre d'images de façon aussi régulière. C'est la vérité. Je considère ces images comme une évasion. Le fait d'en parler avec vous, je trouve ça motivant pour enclencher une démarche de soins.
Suite à cette audition, une enquête a été ouverte par le parquet de Saintes. Selon nos sources, l'anesthésiste continue d'exercer aujourd'hui à l'hôpital de Jonzac, y compris auprès de patients mineurs.
C'était Laetitia Chérel avec Margot Steve. Nous reviendrons sur cette enquête plus longuement dans le journal de 18h ce soir sur France Culture. Ce fut un moment délicat pour les époux Fillon hier devant le tribunal correctionnel de Paris. La justice s'est intéressée à l'emploi de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. Son ancien employeur, Marc Ladré de la Cherrière, a été condamné déjà dans ce dossier pour abus de biens sociaux dans une procédure de plaidé coupable. Il avait reconnu avoir rémunéré Pénélope Fillon de manière excessive, puis fictive. Difficile donc pour elle et son mari hier de se défendre, Antoine Marette.
Marc Ladré de la Cherrière est un ami de 30 ans. « C'est toujours mon ami », affirme François Fillon à la barre. Mais alors pourquoi le propriétaire de la revue des Deux Mondes a-t-il choisi la procédure de plaidé coupable ? S'étonne la présidente. « Je ne peux pas répondre à sa place. Je pense qu'il n'a pas voulu subir de procès. C'est son choix. » « Et je le respecte », conclut l'ancien Premier ministre. Sauf qu'un patron qui reconnaît avoir rémunéré Pénélope de manière fictive complique fortement la défense du couple Fillon. Un CDI à 3900 euros net en échange de pas grand-chose, quelques réunions informelles avec Marc Ladré de la Cherrière à domicile, des notes de lecture dont 2 seulement sont finalement publiées par la revue des Deux Mondes. Le bilan est bien maigre pour ce poste de conseiller littéraire créé sur mesure. D'où cette question, pourquoi Pénélope Fillon a-t-elle attendu 6 mois pour manifester sa frustration auprès de Marc Ladré de la Charrière ? Réponse de son mari, 6 mois avant de demander à son patron plus de travail, ça n'est pas un délai insupportable. D'ailleurs, les salariés placardisés, il y en a plein dans les entreprises françaises.
La Cour d'appel de Paris confirme le placement en redressement judiciaire des sociétés de Bernard Tapie. Il est toujours, je vous le rappelle, condamné à rembourser plus de 400 millions d'euros dans l'affaire de l'arbitrage entre lui, Bernard Tapie, et le Crédit Lyonnais. C'est l'affaire de la revente d'Adidas en 1993. Le temps sera encore perturbé ce vendredi avec des vents parfois violents sur la Nouvelle-Aquitaine et sur une bonne partie de l'Occitanie. Ailleurs, les averses seront sporadiques. Il fait ce matin 5 degrés à Besançon, 6 à Lille et à Rennes, 7 degrés sur l'Île-de-France, 8 à Bordeaux et Lyon et 12 degrés dans la matinée à Perpignan.